rembobiner les siècles, revenir à l'époque des terrains vagues, commencer par le temps où Saint-Denis charbonnait. L'ambiance était champêtre, l'atmosphère ouvrière, la vibration industrielle. Notre bâtiment gris n'était pas encore érigé là, même pas en rêve. Le baccalauréat était une patente en fer forgé, destinée aux enfants sages de la bourgeoisie triomphante. Les lycées siégeaient à Paris et la banlieue besogneuse ne s'en portait pas plus mal. Fabien Truong est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau texte intitulé « La taille des arbres ». Et comme chaque soir, et surtout pour un lundi, on va commencer en musique avec Damso.
Sous l'effet de la scène, policier étranger dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée mystifié, colisé, réparé, offensé. Qui sont-ils quand ils l'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. De la gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les deux barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être marbre, un semblant d'humanité. Charnels sont les générosités pour hypnotiser les gens. Pendant qu'on dit immigré, se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps, où sont entassés des gens. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con. Serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le « en ». Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Humain, je suis plus trop humain. Mais plus que humain quand je vois l'humain. Oui, soudain plus rien. Y'a plus trop d'humains que des terriens. C'est un grand terrain. Qui sème, qui se tue, qui saigne pour rien. Comme un chérubin. La seule voix que je suis vrai, c'est celle de mes cordes vocales. Quand on meurt, on ne fait pas appel. La vie a ses failles. Facture, courrier et rappel. Pousse à faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien. L'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble, c'est plus facile quand on se ment. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question. Mais qui suis-je vraiment quand je le suis plus vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être.
Je n'ai jamais cessé de naître, vient de dire Damso, et on a l'impression, Fabien Truong, que vous, en vous, a commencé assez tardivement la quête généalogique de savoir ce qui s'était passé avant votre naissance.
Oui, ça s'est passé assez tardivement parce qu'en fait, il y a eu un long silence. En fait, je pense que j'ai été construit dans ce silence sur le l'origine. Alors c'est un mot on pourrait mettre plein de guillemets puisque en fait c'est un petit peu aussi une quête incessante et infinie et qui change un petit peu à chaque moment en fait où on creuse. Du coup, c'est arrivé assez tardivement parce que il y avait un silence. Enfin, quand je dis c'est arrivé tardivement, c'est toujours là en fait, parce que le silence c'est aussi une forme de présence, mais pas explicite, et donc du coup avec des trous sûrement, et des choses à excaver, mais ça a été assez tard, effectivement.
Qui vous a parlé ? Personne en fait, c'est vous qui avez été à la recherche ?
Non, en fait, ce que je dis d'une certaine manière dans le livre, c'est que le passé familial, alors là aussi, parce que voilà, il y a toujours plusieurs branches, mais en tout cas en ce qui concerne la question de l'immigration, puisqu'en fait mon père est né au Vietnam, il a quitté son pays, dans des circonstances géopolitiques qui fait que après il est resté en France. En fait, on m'a pas parlé, mais cette présence a été tout le temps extrêmement présente au quotidien, parce qu'en fait comme j'explique dans le livre, ma grand-mère et mon grand-père ont dû fuir et quitter le pays quand j'étais tout petit. Alors mon grand-père est mort assez vite, ça j'en parle aussi, et ma grand-mère, elle est restée en fait très présente, elle a habité chez nous en fait. Elle m'a élevé aussi d'une certaine manière, mais avec beaucoup de choses qui dans sa simple présence traduisaient et trahissaient cette question un petit peu de une origine dont on parlait pas, puisqu'on avait peu de mots en commun. Elle parlait un petit peu le français, mais pas trop. Moi, le vietnamien, je comprenais les quelques mots qui arrivaient dans la maison, comme ça. Mais donc, il y avait une présence, en fait, très quotidienne, très sensible, très douce aussi, et en fait, ultra quotidienne. Ça pouvait être des bruits de prière. C'est beaucoup passé par la nourriture, par des odeurs, l'odeur de l'encens, par exemple. Enfin, avoir plein de petites choses. Donc, en fait, je pense que cette présence un peu enveloppante et en même temps très discrète a longtemps remplacé les mots, en fait. Donc c'était là, parce que c'est forcément toujours là. Mais c'était très sensible pour le coup, et pas du tout de l'ordre du discours. Donc c'était là, tout le temps là, sans vraiment trop savoir pourquoi, je crois.
Vous, ou le personnage que campe votre narrateur dans ce texte, il s'intitule « La taille des arbres », décide d'aller au pays de ses origines, et à un moment, il va vouloir essayer de savoir où habitaient ses grands-parents. Il va faire une recherche dans cette ville qui s'appelait Saïgon et qui s'appelle Ho Chi Minh Ville maintenant. Et à l'adresse indiquée, y a rien.
Oui, il y a rien. Et en fait, comme je le dis dans le livre, en fait, j'avais toutes les raisons d'être déçu parce que j'imaginais quelque chose d'assez, surtout en reconstituant l'histoire de la famille, puisque à l'époque, donc l'époque où ma famille était anciennement Saïgon et maintenant Ho Chi Minh Ville, mon grand-père était un commis des postes, donc plutôt un poste de direction, donc. Voilà, j'imaginais une image un peu exotique du. En fait, à Ho Chi Minh Ville aussi, la poste, hein, c'est quelque chose. Hein, c'est un grand bâtiment colonial, alors assez avec une hauteur de plafond assez dingue, et puis qui, un bâtiment très contradictoire parce qu'il est à la fois beau et à la fois, enfin en tout cas, il y a la beauté, c'est toujours comment dire quelque chose de j'ai envie de dire de relativement relatif, mais en tout cas, il y a une forme de c'est assez majestueux d'une certaine manière, et en même temps, c'est un lieu que les Vietnamiens se sont réappropriés. Et donc voilà, moi mon point d'accroche c'était ce lieu-là, et là il y avait rien de tout ça, c'était bâtiment un petit peu décrépit, entre guillemets sans intérêt, et en même temps ce qui était donc quelque part objectivement j'avais toutes les raisons d'être déçu, et ce que j'ai ressenti devant ce crépit, ce presque rien, ces bâtiments un petit peu quelconques, c'était déjà c'était du dur en fait, c'était quelque chose, et déjà quelque chose plutôt que rien, ça provoque. C'est un lieu aussi, en fait, tout simplement. Et donc, ça m'a procuré un sentiment d'ancrage, je pense, que peut-être je n'avais pas, parce que voilà, quand je parle de ma grand-mère qui vivait chez nous, elle était déplacée, en fait, et vraiment vraiment déplacée. C'est-à-dire que on habitait dans une petite ville de Beauce, donc elle était vraiment vraiment déplacée dans un endroit très étranger pour elle, et là c'était un ancrage physique, et donc ça m'a procuré un sentiment de joie, comme quoi, comme je le disais tout à l'heure, la beauté, c'est, enfin, ce sentiment, le sentiment de beauté ou sentiment esthétique, c'est très relatif. On peut pas le penser indépendamment d'une histoire, d'une trajectoire, d'un trajet, d'un mouvement. Et puis après, voilà, ça a donné lieu aussi à une autre quête, puisque je suis parti à la recherche des livres aussi que mon grand-père a écrit, puisqu'il a écrit des livres, et là aussi ça a été aussi une autre aventure au sein de ce voyage où je n'étais pas seul, hein. D'ailleurs je tiens à le dire, c'était pas du tout c'était un voyage accompagné, qui est un peu une constellation aussi de choses qui se sont passées et qui m'ont, je crois, permis aussi de repenser un petit peu mon histoire personnelle, mais avec d'autres personnes, en étant enveloppé. Ça, c'était aussi une dimension importante de cette quête. Enfin, je sais même pas quel mot utiliser. Quête, ça fait toujours un petit peu, je pense que c'est pas le bon mot, c'est pas vraiment une quête, mais en tout cas, cette recherche.
Cette recherche du temps perdu, peut-on, selon vous, Fabien Truong, reconstituer une mémoire familiale dans laquelle, finalement, toute la généalogie a tu, peut-être par honte, sa propre histoire? Et a-t-on, quand on a votre âge, quoi, vous avez quoi, 35-40 ans, à peu près, non?
Oui.
C'est à peu près ça. A-t-on une sorte de devoir de mémoire envers ses ascendants?
Devoir de mémoire, c'est un terme un peu chargé et qui fait un peu programme politique. Non, je dirais non. Il n'y a pas de. Alors après, on a des obligations, mais qui sont des obligations personnelles, individuelles, sociales. C'est-à-dire qu'on, voilà, on se construit jamais tout seul. Donc il y a, et surtout quand il y a des trajectoires d'immigration et de d'émigration, immigration, pour parler d'ailleurs comme Abdelmalek Saleh, Abdelmalek Sayad, voilà, je l'ai mieux prononcé, un grand sociologue de l'immigration qui montre aussi que dès qu'on a une trajectoire de déplacement comme ça, il y a toujours un mandat collectif, c'est-à-dire qu'en fait on doit toujours quelque chose à ceux qui vous ont précédé, parce que ce déplacement, c'est toujours, il y a toujours eu des douleurs en fait et des souffrances, alors à des degrés divers, selon les histoires personnelles, selon ce qui s'est passé dans le pays d'origine, selon aussi la trajectoire sociale des individus, mais il y a toujours une forme de déchirement, et donc ce déchirement, quand vous venez après, il vous oblige à rendre quelque chose, et c'est très implicite, là c'est moi qui met des mots comme ça, mais et donc il y a, donc c'est pas un devoir de mémoire, c'est plutôt je dirais une obligation de rendre ce qu'on vous a donné, qu'on peut pas toujours vous dire qu'on vous a donné, parce que voilà, il y a des choses qui sont un petit peu douloureuses, donc je pense qu'il y a des moments dans la vie où, quand on a cette trajectoire là on se sent à un moment donné d'aller chercher des choses, et puis et c'est un mouvement, en fait. Alors je dis ça aussi parce que moi en tant que sociologue, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes en fait qui sont passés et qui passent par ces questionnements-là. Et ce qui m'a toujours frappé, c'était que c'était des choses très évolutives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend probablement un peu à l'oublier, parce quand on parle d'identité, j'ai envie de mettre beaucoup de guillemets, je préfère parler d'identification personnellement, je pense que c'est plus juste. On tend à figer les choses, à mettre les choses dans des cadres qui sortiraient pas. Je suis comme ça, tu es comme ça, nous sommes comme ça, voilà, c'est toute cette fameuse rhétorique de la guerre des civilisations qui est ce sont des images, ça, en fait, c'est pas la réalité des vies, elle est beaucoup plus plastique, beaucoup plus fluide. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questionnements, hein, de type identitaire, et des choses qui peuvent vous travailler, produire beaucoup de violence aussi. Donc c'est pas un devoir de mémoire, je pense pas. C'est à un moment donné peut-être une obligation de rendre et d'aller y voir par soi-même, pour reconstruire un petit peu le fil des choses avec ce qu'on a cru percevoir, et puis mais il n'y a pas d'obligation. Je pense qu'aussi parfois il y a des moments où on n'a pas besoin ou pas envie d'aller chercher dans le passé, enfin c'est faut pas non plus que ce soit une obligation, enfin c'est vrai qu'aujourd'hui On vit dans une société qui a du mal à savoir exactement où elle va, donc bon, un certain nombre de personnes qui tendent à chercher des images figées dans le passé pour essayer de donner une direction aux choses, mais bon, très souvent ça traduit un peu une pauvreté dans la projection, puisque c'est aussi, je pense, l'objet du livre, quoi, de dire que plus on cherche, plus c'est infini, plus c'est compliqué, plus c'est ambivalent, plus c'est riche et plus ça ouvre des portes aussi vers l'avenir, vers l'ouverture, donc voilà, aller excaver dans le passé, c'est pas synonyme de fermeture. En tout cas, ça devrait pas l'être, je pense.
Vous êtes beaucoup intéressé aux autres, d'abord en tant que prof dans un lycée, puis ensuite comme enseignant à l'université, ce que vous êtes auparavant. Vous nous avez livré un travail tout à fait remarquable sur la jeunesse dite des banlieues, là aussi j'utilise des guillemets, comme vous, avec des capuches et des hommes, jeunesse française, loyauté radicale, jeunesse française qui reparaît ces jours-ci, d'ailleurs en version de poche. Est-ce que s'intéresser un peu à soi, c'est aussi s'intéresser aux autres dans la même ligne que votre travail sociologique, Fabien Truong?
Oui, en tout cas, je l'espère. J'ai pas du tout voulu faire un livre égotiste ou vraiment centré sur moi, juste pour moi. Oui, puis de toute façon, en fait, quand on s'intéresse aux autres, il y a aussi toujours, surtout. Voilà le type d'enquête ethnographique que je mène, qui sont des enquêtes longues, où en fait, on pour découvrir des choses, il faut donner beaucoup de soi, en fait, puisque c'est tout un tissage, un maillage de relations de confiance. C'est aussi, moi, j'aime bien mener des enquêtes qui ont une durée importante, parce que c'est très simple, c'est-à-dire que plus on passe du temps à observer des individus ou des lieux, plus on observe des changements, des retournements, des ajustements, des choses qui, d'ailleurs, peuvent parfois paraître peu compatibles avec la sociologie. Sinon, une vision un petit peu étriquée de la sociologie comme science du retour au même. Alors, il y a souvent cette caricature, mais justement, même quelqu'un comme Pierre Bourdieu qui a beaucoup parlé de reproduction, de domination, ou même Durkheim qui parle de régularité sociale. Il dit que la sociologie, c'est la science des régularités. Il montre aussi que la régularité ou la reproduction n'existe que parce qu'il y a des écarts, que parce qu'il y a du changement et qu'il y a en fait du changement en permanence. Et donc, observer longtemps les choses, ça permet d'avoir accès à tout ce type de mouvement. Donc en fait, il faut donner de soi beaucoup. Et peut-être que je suis arrivé à un moment, alors c'est aussi ces déplacements au Vietnam, il y a la Nouvelle-Calédonie aussi dans ce livre, qui m'ont un petit peu obligé pas me recentrer sur moi-même, parce que c'est pas vraiment ça l'idée, mais aussi à me dire que au fond, si j'avais passé autant de temps et d'énergie à essayer de comprendre ces autres, c'est aussi qu'il y avait des raisons intimes et qui me renvoyaient d'une certaine manière à parce que c'est des relations tout ça, donc peut-être que j'ai eu ici la envie d'inverser un petit peu le curseur ou la focale, je sais pas trop, et du coup pour ce faire il fallait que je passe par la littérature, en fait, plus que par la sociologie. Pour le coup, ça me paraissait plus juste dans les sensations, en fait, qui se sont développées autour de ce petit inversement de focale.
Vous venez de citer le nom de Pierre Bourdieu. Je vais vous proposer d'écouter Bernard Lahir, parce que je pense que vous êtes d'une génération qui pratiquait la sociologie de l'immersion avec une éthique de considération, de mise en perspective, de changement d'identité, entre guillemets, de chaque être avec qui vous allez tisser des liens très forts. Bernard Lahir va donner sa définition de la sociologie, c'était le 5 février 2018.
Pour moi, mais comme pour d'autres, pour beaucoup de collègues, c'est un moyen de pouvoir réellement agir sur ce monde. Donc, si on veut transformer le monde, de toute façon, il faut le connaître. Je ne vois pas comment on peut échapper à ça. Et ben, les sociologues, c'est comme les biologistes. On ne va pas lutter contre le cancer si on n'a pas des bons biologistes qui travaillent sur ces questions-là. On ne peut pas faire des transformations sociales, politiques, dans le sens que l'on souhaite. Après, le sens, il peut varier selon les groupes, évidemment. Il y a là une question de lutte au sein du monde social. Mais quand même, la sociologie oblige les gens à ne pas se payer de mots. Voilà. Et de pas inventer des choses qui n'existent pas. Quand j'entendais, il y a très longtemps, un ministre dire « on sait bien que c'est les méthodes pédagogiques qui sont responsables des échecs scolaires », on sait que c'est faux. Voilà. Et nous, on est là pour dire non, c'est pas ça. C'est les inégalités de départ qui sont sociales, qui sont culturelles entre les familles, qui se retraduisent scolairement, etc. Et après, sur le marché de l'emploi, ben, on redistribue et on retrouve des structures relativement analogues. C'est pas une question simplement de méthode. Donc, on est toujours là pour remettre un petit peu de l'ordre dans les faits, on va dire.
Est-ce que vous êtes là pour remettre de l'ordre dans les faits, comme vient de le dire Bernard Lahire, qui pratique une sociologie aussi de la proximité et du très long temps d'immersion, à travers vos livres, Fabien Truong, on voit bien que vous étudiez des personnalités qui vont changer selon l'évolution du temps. Elles ne sont pas fixées justement dans une identité qu'on leur a assignée. Il n'y a pas de notion de destin à l'intérieur de votre travail sociologique. Mais certains autres, opposés à la sociologie, pensent que c'est peut-être justifié des destins qui, quelquefois, peuvent basculer. Qu'en pensez-vous de cette critique ?
Oui, donc c'est la fameuse confusion entre deux verbes, finalement, entre excuser et expliquer. Et même, on pourrait aller un petit peu, plutôt qu'expliquer, c'est sans doute comprendre le terme le plus juste. Bon, que dire à part le fait que ce sont deux verbes différents, donc on est sur deux plans très très différents. Quand on est sur la question de l'excuse, on est dans l'ordre du jugement, donc dans l'ordre de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, la norme, etc. Donc dans une forme de positionnement politique ou voire juridique, mais ça c'est un plan de l'analyse. Comprendre, c'est justement autre chose, c'est faire un pas de côté, et d'ailleurs qui est très très coûteux en fait quand vous êtes sociologue, c'est-à-dire que pour rajouter
parce que c'est une remise en question de vous-même.
Bah bien sûr, et pour rajouter à ce que disait Bernard Lahire, c'est-à-dire que quand on remet entre guillemets de l'ordre dans les faits en tant que sociologue, c'est aussi parce qu'on prend les faits au sérieux, et prendre les faits au sérieux, c'est déjà commencer par lutter contre soi-même, contre ses propres voilà, Bourdieu appelait ça le sens commun, Durkheim les prénotions, Weber parlait de neutralité axiologique, enfin c'est quand même au fondement de la sociologie cette question de la mise à distance, et c'est beaucoup de travail en fait. Et c'est vrai que la caricature qui vise à présenter les sociologues, parce que justement ils expliquent ou ils essayent de comprendre des phénomènes qui sont qui renvoient à des questions d'injustice sociale, qui renvoient à des questions de violence parfois, ou de violence sociale de manière très générale, de domination, de reproduction, des choses qu'on n'a pas envie d'entendre en fait dans une société qui se veut démocratique, où on a tous envie de croire qu'on est de pure volonté individuelle, totalement, toujours libre et jamais déterminé, ce qui, voilà, on sait, c'est pas le cas. Et donc, du coup, quand on annonce des mauvaises nouvelles, en fait, quand on est sociologue, au sens où ce sont des travaux qui visent à ne pas faire que le monde social tourne comme ça, sans explication. Et donc, ce geste-là, il est coûteux, en fait. Et très souvent, dans ces critiques, voilà, qui laissent penser que la sociologie, c'est du militantisme, ne prennent pas en considération ce coût. Et ce coût, c'est la mise à distance de ses propres idées préconçues. Et on en a, évidemment, en tant que sociologue. Et la mise à distance, elle passe par le geste de l'enquête. Et l'enquête, c'est aussi coûteux. C'est-à-dire que ça prend du temps. C'est pas juste une opinion comme ça qu'on pourrait lancer. C'est vrai que, par exemple, sur la question des banlieues, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, la plupart des gens qu'on entend en fait dans les médias, ils vous parlent des banlieues comme s'ils établissaient un diagnostic sur des lieux qui, d'ailleurs, dans la plupart du temps, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas visité, et donc en fait ils ne parlent pas des faits, ils donnent leur propre opinion sur les faits. Donc en fait, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, de ce point de vue-là, faire la sociologie, c'est surtout ne pas parler de soi. Et ça, ça nécessite du temps, du travail. Et donc, ce qui est très souvent d'ailleurs, pour les gens qui parlent de la sociologie sans l'avoir lu, voilà, il y a un manque de considération quand même terrible de ce point de vue-là, parce que ce temps-là, c'est aussi ce qui fait, enfin, pour revenir à ce que disait Bernard Lahir, ce qui fait que ce qui est dit est fondé, structuré, s'établit sur et là, on est dans le registre de la science, en fait, en tout cas de la démarche scientifique. Voilà, cette remise en ordre, c'est aussi apporter parfois un petit peu de distance et de rationalité dans des faits qui arrivent de manière très très chaude de toute façon. Donc ça, c'est comprendre. Et c'est un temps qui n'est pas le temps du jugement, de l'anathème. C'est vraiment autre chose. Donc, ce sont deux verbes différents, deux démarches très très différentes. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus que rappeler que ce sont deux choses très très différentes. D'ailleurs, Manuel Valls, qui avait eu ses propos, donc c'était après les attentats en 2015. Alors ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait moins de bruit après. Il les a un petit peu regrettés aussi, parce qu'il s'est rendu compte qu'il parlait sous le coup de l'émotion, de la sidération. Mais c'est vrai qu'on a entendu, on a moins entendu cette remise en question, mais que j'ai entendu, qu'il a aussi lui-même prononcé, puisque ce sont pas les mêmes mots.
En tout cas, le travail sociologique que vous faites, et ce depuis des années, Fabien Truong, nous permet de comprendre la complexité de la réalité, loin des clichés, loin des invectives, et loin aussi de ce que peut donner en pâture les médias. Je vous propose, puisque vous parlez de Pierre Bourdieu, d'écouter la voix de Pierre Bourdieu. Pourtant, c'était en avril 94, c'était au moment où sortait ce livre très important, qui s'intitulait « La misère du monde », Pierre Bourdieu qui va parler de sa vision des banlieues donnée par les journalistes juste à ce moment-là de la publication de « La misère du monde », donc en 1994.
Je pense que le journalisme aujourd'hui joue le rôle, si on pouvait faire un jeu de mots à la manière des titres Libération, de grand écran. C'est-à-dire que apparemment, enfin évidemment on peut pas parler de journalisme en général, mais globalement on peut dire que apparemment il livre de l'information, en particulier sur les lieux considérés comme difficiles, et en réalité cette information a autant pour effet de masquer que de dévoiler. Alors c'est paradoxal, puisque la télévision en particulier est là, Elle donne du direct, de l'image, des choses qui sont apparemment incontestables. En fait, elle construit à partir des catégories de perception, à partir du point de vue particulier des journalistes, elle construit une réalité souvent fantasmatique et sans grand rapport avec la réalité. Alors, par exemple, on le dit dans le livre, enfin, nous sommes allés dans un certain nombre de lieux qui ont attiré les feux de l'actualité, enfin, les feux de la télévision, etc. Nous sommes allés après, et une des principales difficultés que nous avons rencontrées était la résistance que suscitait l'expérience que les gens avaient eue des journalistes. Et il y a une profonde révolte, enfin, chez les objets de journalisme, enfin, contre l'image que le journalisme donne d'eux. Donc, et un décalage énorme entre ce que les journaux disent et ce que l'on peut voir dans le quotidien. En particulier, semble-t-il, parce que ce qui est normal, d'ailleurs ça fait partie des conditions d'exercice du métier de journaliste, les journalistes travaillent dans l'extraordinaire, dans l'extra quotidien, comme disait Max Weber, parce qu'ils saisissent toujours les occasions où il se passe des choses exceptionnelles, et ils oublient le train-train de la vie quotidienne, qui même dans les endroits dits difficiles, ce train-train peut être très différent, enfin, de l'image qu'on en donne. Voilà.
Nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, et personnellement, mais je ne sais pas si vous partagez mon avis, je trouve que cette parole-là, prononcée en 94, n'a pas pris une ride, et que on peut peut-être appliquer cette critique que fait Bourdieu au cliché transmis, véhiculé, répété, d'autant plus décuplé par les réseaux sociaux dont vous parlez. D'ailleurs, l'introduction des réseaux sociaux à l'intérieur de la pratique du réel a évidemment transformé notre rapport au réel. Fabien Truong.
Non, c'est vrai que quand on écoute, il n'y a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que les choses sont probablement accélérées en fait aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes d'information en continu, il y a aussi cette course en fait à l'audimat dont parlait déjà Bourdieu, mais qui voilà fonctionne maintenant par le clash en fait. Ce qu'on cherche à de plus en plus pour générer de l'audimat, c'est produire de l'émotion avec des oppositions très très fortes, très tranchées, donc des positions on n'est pas en fait dans une position de dialogue et de compréhension par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc de ce point de vue-là, oui, les choses se sont accélérées, elles se sont d'autant plus accélérées qu'on est dans un monde où il y a beaucoup plus d'images par rapport à 94, donc d'images comme ça un petit peu fixistes qui pullulent et qui polluent en fait l'espace des représentations. Et je pense qu'il y a qu'à voir l'état du débat dans la campagne présidentielle, dans la pré-campagne présidentielle actuelle, pour voir aussi que évidemment cette représentation du monde.
Vous avez écouté la matinale de France Inter ce matin?
Non, j'ai pas écouté ce matin. J'étais si c'était avec Éric Zemmour, c'est ça. Oui, j'ai écouté le début, mais après j'ai vaqué à d'autres occupations. C'était, je pense que tout était dit. Donc ça témoigne, ça témoigne de ce dont parlait Bourdieu. Et on voit bien aussi d'ailleurs, l'éloignement avec la réalité en fait du monde social. Parce que quand on parle aujourd'hui de l'écart qu'il y a, en tout cas la distance qu'il y a entre le monde politique et l'ensemble de la population, ce qu'on voit très très bien aujourd'hui. Il n'y a aucun candidat qui fait une sorte d'unanimité où elle témoigne en fait de cet écart dans les représentations. En fait, ces représentations politiques et médiatiques, elles sont très très éloignées de ce que vivent profondément la plupart des individus. Et aujourd'hui, on en est là. Donc la décrédibilisation de la parole politique, elle est aussi finalement le fruit de ce cercle de représentation, beaucoup trop décalé par rapport en fait aux préoccupations quotidiennes, aux problèmes en fait du monde social. Et là, on en revient à l'importance de la sociologie pour remettre de l'ordre. Ou alors, c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, de la littérature pour rajouter du trouble, parce que c'est aussi c'est un autre registre en fait de compréhension du monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à manquer d'espace en fait pour tout ça. Essayons de prendre les petits espaces qui émergent.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Fabien Truong. This is the kit we are in.
Today we are the same age. 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 And we have both been far away. We have both been far away. But today we're in the same place. Today we're in the same place. We are in, we are in. We are in, we are in.
My wife and kids. Today because today we're in the same place. Today we are the same age. We are in, we are in. We are in, we are in. We are in, we are in. We are in, we are in.
La question de d'où tu viens, elle est problématique. En fait, elle est problématique dans la bouche de la personne qui l'énonce. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça me pose pas de problème, et il y a des endroits où j'entends quelque chose d'une nécessité de dire une appartenance qui est autre. C'est-à-dire que et c'est ça qui est très ambivalent. C'est-à-dire que je suis à la fois sénégalaise et française. Je suis tellement faite de tout ça que c'est très difficile de me positionner très clairement. Et généralement, quand les gens me disent « mais tout vient d'où ?», c'est-à-dire quand je rencontre des gens, mais ça m'arrive un peu moins maintenant, mais c'était presque comme une injonction, en fait, à leur signifier que je n'appartenais pas complètement à cette histoire-là, c'est-à-dire à cette histoire française. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui me la posent, ça ne me pose pas de problème, et il y a pour d'autres personnes, j'entends un sous-texte à cette question. Et c'est surtout sous texte-là que j'ai tenté de film en film, pas forcément de dénoncer, mais de questionner, en fait. Oui, je suis profondément française, comme je suis profondément sénégalaise, à des endroits complètement différents, parce que je suis traversée par ces deux histoires. Voilà, j'ai grandi ici, mon fils est né ici, on a écouté l'extrait de ce film Nous, où j'ai eu la douleur de cette discussion avec mon père autour du lieu de sépulture. Et c'est sûr, aujourd'hui, à 41 ans, je peux dire que je serai enterrée en France, je serai enterrée là où est mon fils, là où est ma vie. Mais c'est aussi, c'est pas tragique, mais c'est douloureux de l'énoncer. Parce que ce lieu de la sépulture, ça dit quelque chose de rompu entre mes parents et moi. Mes deux parents sont enterrés au cimetière de Yoff à Dakar, et d'une certaine manière, le lieu où je serai enterrée, je sais même pas si mes sœurs, elles, seront enterrées là, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, je sais que je serai enterrée en France. Et voilà, c'est là où j'en suis dans mon histoire, c'est là où j'en suis dans ma vie, et sans doute que ça dit quelque chose de mon appartenance. Mais cette appartenance, elle est tellement composite que je refuse même de la nommer, en fait.
Nous venons d'entendre la voix d'Alice Diop, cinéaste, qui a fait un magnifique film, Nous, qui est actuellement visible au Centre Pompidou et aussi sur Arte. Je trouve qu'Alice Diop participe du même mouvement de sociologie comparatiste que vous. D'ailleurs, vous avez à peu près le même âge, vous faites partie de la même génération, et vous êtes aussi en quête, justement, de complexité et non pas de fixation dans des foutues identités dont on nous rebat les oreilles absolument toute la journée. Vous aussi, vous avez fait un film, Fabien Tron, qui s'intitule Les Défricheurs, et vous aussi, je pense que votre identité n'est pas définitivement fixée. Par contre, votre travail, qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de compréhension, beaucoup d'implication aussi, une suspension du jugement moral, nous permet de comprendre peut-être des choses extrêmement complexes. Par exemple, par rapport aux jeunes que vous avez suivis, aussi bien dans Des Capuches et des Hommes que dans Jeunesse française ou dans Loyauté radicale, il y a un moment extrêmement difficile dans l'adolescence, dites-vous, où tout peut basculer. On a l'impression que celles et ceux, et là vous avez plutôt travaillé avec des garçons, ceux qui sont en train de franchir cette frontière peuvent tout d'un coup aller vers quelque chose que vous appelez zone, pas zone dangereuse, mais zone de non-confort. Qu'est-ce que c'est que cette zone-là ?
Alors déjà, pour revenir à Alice Diop, je pense qu'elle dit très bien, en fait, que dans la question « d'où viens-tu ?», en fait, c'est... soit ça peut être un soupçon, ou soit ça peut être une invitation. La question de l'invitation, en fait, c'est la question la plus intéressante, parce que c'est celle qui ouvre en fait le dialogue, alors que le soupçon, justement, c'est un refus de la question. C'est-à-dire que on veut même pas entendre la réponse, parce qu'on peut pas avoir, comme elle le dit bien, des réponses binaires et définitives sur ces choses-là. Et du coup, c'est la dimension définitive, en fait, qui, en tout cas, moi, dans mon travail de à la fois en tant que sociologue, mais aussi dans ce livre avec la littérature, de manière différente d'approcher les choses, mais avec un air de famille qui est de refuser la dimension que les choses sont comme ça une fois pour toutes. Du coup, ça renvoie à votre question du basculement. Il peut y avoir des moments où les choses basculent d'un côté, de l'autre, du mauvais côté, entre guillemets, du bon côté. Et du coup, là aussi, ces choses-là, il faut les regarder un petit peu dans le détail. Alors, ce que vous mentionnez, je pense que vous pensez à l'idée de seconde zone que je développe dans Loyauté radicale. Alors, c'est très particulier ce que je développe avec le terme de seconde zone. C'est-à-dire, c'est aussi pour ce qu'on parle très souvent, la délinquance juvénile, masculine, dans les quartiers populaires, etc. Alors, qui existe, alors elle n'est pas majoritaire, mais elle existe. Par contre, quand on regarde les choses d'un petit peu de près, on peut voir qu'il y a deux types de catégories. C'est-à-dire qu'il y a la norme, c'est en fait des garçons qui passent par un moment de délinquance, plus ou moins prolongé, mais à un moment. Et donc, il y a la question de l'entrée et de la sortie. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, en fait, en tant que sociologue. C'est pas juste décrire l'état un peu fixiste de qu'est-ce que c'est qu'un délinquant, une racaille, ou enfin, voilà, on peut utiliser tous les termes, avec des guillemets ou sans. Ça, c'est des moments. Et donc, les réinscrire dans pourquoi on rentre et comment on en sort, puisque c'est la norme, ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, c'est politiquement beaucoup plus puissant, je pense, de réfléchir à ces processus, d'entrée, donc des moments de basculement, entre guillemets, et puis de ce qu'on appelle la désistance. Qu'est-ce qui fait que, majoritairement, on en sort. En fait, c'est très rare de rester un délinquant toute sa vie, en fait, dans les films de Scorsese, peut-être, mais en fait, dans la vraie vie, c'est rare. Donc ça, il faut le rappeler. C'est-à-dire que, et déjà, ne serait-ce que si on regarde la question de la délinquance juvénile avec cet œil-là, on peut avoir tout à fait d'autres approches politiques que ce que celle qu'on a
aujourd'hui. Oui, mais de la délinquance, on peut basculer aussi vers le djihadisme, c'est ce que vous avez étudié.
Voilà, et donc c'est l'idée de... Alors, quand je parle de seconde zone, c'est donc cette sous-population, à l'intérieur de cette population plus particulière, de jeunes garçons qui restent englués, et donc qui deviennent moins jeunes, et qui restent pris, en fait, toute leur vie, dans la délinquance, comme ça, au long cours. Alors ça provoque des subjectivité tout à fait particulière, un rapport au monde très très particulier, c'est-à-dire qu'il y a une expérience de la violence qui est centrale, en fait. Et là, on est sur autre chose. Donc, ce serait peut-être un peu long de détailler, parce que c'était l'objet d'un livre en entier. Ça ne veut pas dire qu'il y a un basculement nécessaire dans l'idéologie djihadiste, par exemple, mais en tout cas, ça peut permettre de comprendre un certain type de basculement. Et voilà, moi, je me suis beaucoup intéressé à la fabrique de ce que Mark Stageman, qui est un politiste, sociologue américain, appelle le homegrown terrorism, c'est-à-dire le terrorisme de maison, c'est-à-dire les personnes qui décident de frapper le pays dans lequel ils sont nés. Et là, ce sera un peu long à développer, mais il y a toute une fabrique française au sein de cette seconde zone de ce type de profil et de rapport au monde. Et d'une certaine manière, l'idéologie de Daesh, que je qualifie dans ce livre d'imaginaire politique flottant, a su jouer en fait sur une forme de décontextualisation de cette violence, justement en faisant croire à beaucoup de jeunes qu'ils étaient de là-bas alors qu'ils sont peut-être plus d'ici. Enfin bon, là je dis ça un petit peu vite, et a récolté le fruit en fait de cette histoire et de cette construction dont on aurait intérêt à mieux la comprendre, en fait, d'un point de vue politique. Mais vous voyez, on voit que dès lors qu'on commence à contextualiser, par exemple, c'est difficile de parler de la délinquance en banlieue comme ça, de manière très générale et générique. Ça fait pas vraiment avancer le débat.
Dans Loyauté radicale, Fabien Truong, vous parlez de l'islam et d'un islam qui, quelquefois, se transforme en islamisme. Vous venez de parler de Daesh. Et vous expliquez, si je vous ai bien compris, j'ai trouvé ça absolument passionnant, comment pour cette jeune génération qui tombe dans le djihadisme, il y a la possibilité de se ressourcer à une religion qui leur permet, d'une part, de comprendre leurs racines, d'autre part d'être affilié à une sorte de communauté, même si elle est un peu fictive, en tout cas c'est une communauté, et d'autre part de se singulariser par rapport à leurs parents, qui eux-mêmes n'ont jamais parlé de leur appartenance, de leurs origines, et donc de prendre une certaine revanche, d'être plus fort, entre guillemets, que leurs propres parents.
Oui, et du coup, on revoit tout ce qu'on disait au début de l'émission sur la question du mandat, sur la question aussi, parce que sur la question du mandat dans les trajectoires d'immigration, il y a toujours aussi cette injonction très implicite, en fait, dans les familles d'origine immigrée, où les enfants doivent dépasser les parents. Alors, d'une certaine manière, c'est dans le cas dans toutes les familles. En gros, tous les parents rêvent que leurs enfants réussissent.
Oui, entre sauf guillemets. Que l'école, vous le montrez bien, et vous savez de quoi vous parlez, joue de moins en moins le rôle d'ascenseur social.
Oui et non, mais il y a le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Mais je voudrais juste revenir sur cette question du dépassement, parce qu'elle est particulièrement violente dans les trajectoires d'immigration, qui connaissent une immigration un peu douloureuse, au sens qu'il y a l'idée du dépassement, mais aussi cette idée de ne deviens pas ce que je suis, hein, notamment dans les familles de milieux populaires où les parents immigrés ont eu des boulots très difficiles, sont déjà cassés à l'âge de la retraite, etc. Donc il y a l'idée que l'école doit transformer la destinée sociale de la famille, et cette idée que voilà, nos enfants ne doivent pas faire en fait les boulots qu'on a fait, ne doivent pas vivre en fait la vie qu'on a eue, doivent quitter la cité, etc. Donc il y a une injonction quand même, c'est quand on réfléchit, c'est-à-dire c'est pas juste faire mieux que papa et maman, c'est ne pas être papa et maman d'une certaine manière. Et donc ça se dit très rarement, parce que c'est extrêmement violent quand c'est dit de manière trop explicite, mais il y a cette tension permanente. Et c'est vrai que ça se joue beaucoup quand on parle de l'islam et du rapport entre les générations. Cette tension, elle se joue aussi dans la religion, et c'est aussi pour ça que un petit peu, on parlait des images tout à l'heure, et quand on parle de l'islamisme, du communautarisme, toutes ces images, vous faites peut-être référence à la matinale de France Inter ce matin, où en gros l'islam c'est un gros bloc qui n'est massif que parce qu'on ne l'a pas regardé, parce qu'on ne le connaît pas. Mais je suis désolé de dire que il suffit de passer un temps relativement important, et je dis relativement important dans les quartiers populaires, avec des familles musulmanes, pour voir que l'islam des parents n'est jamais l'islam des enfants, en fait. Il y a une construction très très différente, et d'ailleurs c'est très souvent un vecteur d'opposition, en fait, entre les parents et les enfants, et on parlait de l'adolescence tout à l'heure, un âge où on essaye de s'affirmer contre ses parents. On va s'affirmer en mobilisant le référent de l'islam, mais en pratiquant pas le même type de religion, en lisant pas du tout les mêmes textes, en n'ayant pas le même rapport à l'arabe, notamment, enfin tout un tas de choses, et de fait, c'est très souvent plus un vecteur d'opposition. Alors d'opposition qui peut être temporaire, parce que les gens grandissent et les gens changent, et ça bouge tout le temps, mais on est très très loin, en fait, de cette idée d'une communauté homogène, unifiée, avec un islam, et qui serait du coup nécessairement le plus rigoriste et le plus contraire aux valeurs de la République. On ne peut tenir que ce genre de discours quand on regarde les choses de très très loin et de très très haut. Mais au sein des familles, c'est autre chose qui se joue dans le rapport à la religiosité. Et c'est très souvent ces formes d'opposition, de dépassement, de recouvrement, et aussi avec des formes parfois d'attachement. Il y a des choses très très simples, comme parfois, j'ai souvent vu ça entre les hommes, notamment entre les fils et les pères, le fait de fréquenter la mosquée parfois ensemble, mais à distance, avec des amis différents, c'est parfois un lieu où on est ensemble, on ne se parle pas, mais on se dit quelque chose d'une forme d'attachement. Et comme on le disait tout à l'heure en début d'émission, les choses ne passent pas toujours par les mots. Elles peuvent passer par un petit peu de physicalité, comme ça. Et ce type de scène ou de moment peuvent aussi jouer ce rôle-là, mais dans des situations où les enfants et les parents restent très différents, et y compris dans leur rapport à la religiosité, en fait.
Les petits fripons en jaune et rouge s'impatientent, il fait trop faim, on avait dit qu'on ferait la fête, c'est l'heure de chauffer les fourneaux et de remplir les ventres. Dans la cuisine, je regarde mon père qui déchiffre la langue, ma mère qui joue au foot avec ses petits-enfants. C'est la fin de votre premier roman intitulé « La taille des arbres ». À la fin de ce livre, il est marqué pour Oscar, Félix, c'est la suite. C'est les petits fripons, c'est ça ? C'est l'avenir ?
C'est les petits fripons, c'est l'avenir. C'est aussi la transmission, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on tourne peut-être autour de ce mot-là, et c'est pour ça aussi que les arbres, puisque le titre n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on est entouré d'arbres dans ce livre, il nous donne beaucoup de leçons aussi, d'une certaine manière, sur cette question de la transmission du rapport à l'avenir, parce qu'en fait, les arbres, ils ont des racines, mais des racines qui sont tout le temps vivantes, qui puisent, qui communiquent, ils regardent haut aussi, parce qu'ils regardent vers le ciel. Comme je l'écris dans le livre, ils regardent vers le ciel, ils nous dominent, mais ils ne se moquent pas. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, très souvent, quand on domine, on a tendance à se moquer, à mépriser. Et donc, voilà, dans ce livre-là, il y a aussi une confrontation aussi à la nature, en fait, et qui était importante par rapport à toutes ces histoires d'origine, puisque moi, comme les autres personnes, enfin moi narrateur, hein, pas moi forcément hyper personnellement, dans ce livre-là, c'est aussi une population du béton qui rencontre la terre, les feuilles, et ce qu'elles peuvent nous dire.
Merci beaucoup Fabien Truong. Je rappelle que La taille des arbres vient de paraître aux éditions Rivage et que Jeunesse française est rééditée en livre de poche.
C'est ce que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes et sans bruit, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous.
Et c'est avec Au clou et pomme que nous allons nous quitter ce soir. Je voulais aussi signaler que Fabien Truong, vous pouvez le retrouver au Centre Pompidou dans le Festival de littérature Effraction à partir du 24 février, mais vous pouvez aussi le rencontrer ce mercredi à la librairie Denise à Saint-Denis. Merci à Pierre Faucillon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Marie Clément, Élodie Royer, Céline Villegas. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci bien sûr à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Après le prochain journal, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Sayas pour son nouveau Very Good Trip.